This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو جلوبو.
From CNN Radio 7.
من راديو داشا.
برافيو. كاسلي كيو.
تركيا فوتو. سلاما. روسيا.
Le 18-20 de France Inter continue. Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui à Rome, en Italie. Visite du bunker de Mussolini avec Anaïs Feuga. Au Liban, où l'aide aux réfugiés reprend bon an mal an. Reportage sur place d'Omar Waman. En Australie, le pays face aux défis de l'immigration et des minorités aborigènes. Ce sera avec Eric Valmire. En Centrafrique, pour la fabrique du Nouveau Monde de Dominique André. 18h55, l'édito, Alain Frachon et ce rideau sur la révolution des parapluies de Hong Kong. Mais tout de suite, 18h17, comme disent les militaires et les diplomates, la région AFPAC.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
AFPAC comme Afghanistan et Pakistan, une poudrière où les attentats terroristes forment une routine tragique. Ce matin, au Pakistan, dans la ville de Peshawar, ce sont des talibans qui sont entrés dans une école pour un carnage dont le bilan s'établit pour l'instant à 141 morts, dont 132 enfants. Certains de ces enfants assassinés d'une balle dans la tête, rapporté ce matin le quotidien Libération. C'est d'ores et déjà le pire attentat de l'histoire du Pakistan. Jeudi dernier, à Kaboul, c'est l'Institut culturel français qui était la cible d'une attaque kamikaze. Les attentats se multiplient là-bas aussi, alors que les forces combattantes de l'OTAN quittent le pays d'ici la fin du mois. Bonsoir Pierre Lellouche.
Bonsoir Monsieur Demorand.
Vous êtes le député UMP de Paris, mais ce n'est pas pour cet aspect de votre biographie et de votre vie politique que je vous reçois ce soir sur France Inter. Vous avez été le représentant spécial de la France pour l'Afghanistan et le Pakistan. À l'époque de votre nomination à ce poste, il y avait précisément un changement d'approche géopolitique. Ne pas considérer l'Afghanistan comme un problème isolé, mais plutôt comme un terme d'une équation autrement plus compliquée qui impliquait le Pakistan, où a donc eu lieu ce carnage ce matin. Quelle a été votre réaction en apprenant l'ampleur de cette monstruosité terroriste ?
D'abord, je devais être à Kaboul, moi, le week-end dernier, dans le cadre d'une mission, justement, pour la fin de la présence de l'OTAN, et le voyage a été annulé compte tenu de la montée des tensions. Les services connaissaient la montée des attentats, puis il y a eu l'attentat de jeudi.
Au centre culturel.
Au centre culturel. Donc je ne suis pas très surpris. Ce qui se passe, c'est une double pression. D'abord, pour comprendre les choses, il faut bien comprendre que sur cette chaîne de montagnes qui sépare l'Afghanistan et le Pakistan, vivent des Pashtuns. Les Pashtuns, c'est 40% de la population de l'Afghanistan. C'est eux les talibans. Les talibans, c'est vraiment centré sur l'ethnie Pashtun. Il y a d'autres gens qui habitent en Afghanistan, des Tadjiks, des Turkmènes, des Hazaras, qui sont plutôt en lutte contre les Pashtuns dominants. Puis de l'autre côté de la frontière au Pakistan, vous avez d'autres Pashtuns, mais qui pour le coup sont minoritaires. Parce que d'abord, le Pakistan c'est beaucoup plus grand, c'est presque 200 millions de personnes aujourd'hui. Et puis l'ethnie Pashtun ne représente que 10% de cette population. Donc en ce moment, vous avez une double poussée. Vous avez les talibans afghans qui veulent montrer, ils sont dans un rapport de force avec le nouveau gouvernement élu cet été, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, son Premier ministre. Eux, c'est la première fois qu'on élit démocratiquement et à peu près dans la paix un gouvernement. Les talibans disent, maintenant que le temps s'en va, on va vous montrer que nous allons reprendre le pouvoir. Donc, multiplient les attentats partout dans le pays, y compris dans Kaboul. Et simultanément, vous avez la branche pakistanaise des talibans qui, elle, est en guerre contre l'armée pakistanaise, mais là, ça remonte à 5-6 ans déjà, puisque il y a eu une tentative, à un moment, les talibans avaient été en train de descendre sur Islamabad. Et c'est là qu'on rentre sur les jeux très complexes du gouvernement pakistanais, parce que les Pakistanais, ils ont créé le monstre, et ils en payent le coup. Très longtemps, les Pakistanais ont utilisé les talibans comme le moyen de peser sur ce qu'ils considèrent comme étant leur arrière-cour. L'Afghanistan, ça leur appartient, ils considèrent Pakistan considère que c'est l'arrière-cour dans le grand combat stratégique contre l'Inde.
Voilà, alors voilà. Ça, on va y venir parce qu'il y a eu une condamnation unanime, évidemment, de cet attentat ce matin. Les autorités pakistanaises ont dit leur horreur, ont organisé immédiatement, ont décrété immédiatement plusieurs journées de deuil national. Mais on a pu voir aussi instantanément une polémique surgir, des critiques très fortes surgir, Pierre Lelouch disant « on les a abrités, on les a armés, on a joué avec le feu, nous ne sommes pas tous ensemble face au malheur. Il y en a un certain nombre qui, dans l'appareil d'État pakistanais, ont armé ces gens-là, c'est vrai ?»
Et comment ? Il faut comprendre que l'ADN du Pakistan, c'est d'être musulman. Sinon, il n'y aurait pas de Pakistan. Le Pakistan, la naissance du Pakistan, c'est la séparation de l'Inde. Et donc, 200, ils sont aujourd'hui 200 millions, sont sortis de l'Inde, mais en fait, c'est le nord de l'Inde. Donc, pour que le Pakistan ait une identité, elle ne peut être que musulmane. Et depuis cette partition, il y a une tension très forte. Le Pakistan, il essaye d'exister face à un immense géant indien. Ça s'est traduit par plusieurs guerres sur les frontières de l'Himalaya. Et aujourd'hui, encore... à droite de l'endroit où je vous parle, à droite du Waziristan, des zones tribales afghano-pakistanaises, vous avez la guerre du Cachemire, avec l'armée pakistanaise, l'armée indienne. Et toujours le même usage par les Pakistanais de terroristes qui descendent sur le Cachemire indien, avec le même mode opératoire.
Et
donc, le drame de l'Afghanistan, monsieur de Morant, c'est que tant qu'il sera l'objet d'une lutte entre l'Inde et le Pakistan, on n'en sortira pas. De la même façon que pendant très longtemps, c'était un territoire d'influence contrasté entre la Russie qui descendait vers le sud et l'empire indien, anglais d'Inde. L'Afghanistan était l'enjeu de ce grand jeu, allez, on appelait ça le grand jeu au XIXe siècle. Le jour où les Russes et les Anglais ont compris qu'on ne pouvait pas contrôler l'Afghanistan, c'est militairement impossible et ils sont trop durs au combat. Les deux se sont retirés et l'Afghanistan a pu être indépendant. Et le drame de l'Afghanistan a recommencé quand les Soviétiques sont rentrés, puis les Occidentaux. Et aujourd'hui, l'avenir de ce pays est tenu dans cette rivalité entre l'Inde et le Pakistan. C'est là que interviennent un groupe qui s'appelle l'ISI, c'est les services secrets pakistanais, qui depuis des années instrumentalisent les talibans pour peser sur l'évolution intérieure de l'Afghanistan.
Et les pays occidentaux, entre guillemets, qui ont eu des hommes et de nombreux hommes sur place, des militaires dans cette région-là, quelle est leur relation aujourd'hui au Pakistan ? Parce que ce matin, j'entendais le président de la République, François Hollande, condamner évidemment fermement cet attentat et envoyer un message de soutien au Pakistan. Le Pakistan a rompu et les services secrets pakistanais ont rompu avec ce que vous décriviez tout à l'heure, à savoir l'instrumentalisation du terrorisme.
Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et nous, les Occidentaux, n'avons pas rompu non plus notre ambiguïté. C'est un jeu très ambigu. Ça fait très
comment elle se formule, l'ambiguïté occidentale ?
L'ambiguïté, c'était d'aider... D'abord, pendant très longtemps, l'Inde était sous l'influence des Russes pendant la guerre froide. Tandis que le Pakistan était plutôt l'allié des Américains et accessoirement des Chinois, armé puissamment par les Américains. Et puis nous, on a vendu énormément d'armes, y compris les sous-marins, les fameux sous-marins, et beaucoup d'armes au Pakistan. Le jeu s'est aussi centré sur la course aux armements nucléaires. Les Indiens ont fait exploser leur première bombe atomique en 1974. Et depuis, les dirigeants pakistanais n'avaient qu'une obsession, rattraper l'Inde. Et rattraper l'Inde par tous les moyens, y compris en volant les secrets nucléaires, c'est ce qu'a fait le père de la bombe pakistanaise, Abdul Khan, volant les secrets de l'enrichissement en Hollande. Il avait épousé pour ça une Hollandaise, figurez-vous. C'est devenu un héros national. Si vous allez à Islamabad, il y a une place où il y a la bombe atomique et puis des missiles. Donc le Pakistan a été absolument obsédé par ça. Les Américains ont essayé de les contrôler en modulant les ventes d'armes par rapport au contrôle de leur programme.
Échec.
Et dans les années 90, il y a eu une cascade d'explosions nucléaires, de tests pakistanais et indiens. Et les deux puissances sont installées dans une sorte de bras de fer nucléaire. qui inquiète d'ailleurs les spécialistes, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ces armes, elles sont détenues par l'armée pakistanaise, pas par le pouvoir civil, qui est archi-corrompu depuis toujours, et dans lequel personne n'a vraiment confiance. Sharif a été lui-même compromis dans des affaires, il était réfugié en Angleterre, il est revenu. Donc ceux qui ont le pouvoir au Pakistan sont les militaires, c'est eux qui ont la bombe atomique. Et à côté des militaires, il y a l'ASI, les services secrets, qui livrent leur propre guerre aux Indiens, aussi bien dans le Cachemire qu'en Afghanistan. Et tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de trouver un statut de neutralité, c'est un peu comme l'Ukraine, si vous voulez, il faut qu'on trouve un statut entre nous et les Russes pour stabiliser ce pays. C'est pareil en Afghanistan, il faut que les puissances extérieures acceptent d'enlever leurs pattes. Et là, il y a une chance pour l'Afghanistan s'en sorte.
L'OTAN va, les forces combattantes de l'OTAN lèvent le camp d'ici la fin de l'année, la fin du mois de décembre, c'est-à-dire dans très peu de jours maintenant en Afghanistan. Quel aura été le bilan de leur présence ?
Ils lèvent quasiment totalement. Il va rester une douzaine de milliers d'hommes. Ils sont chargés de former l'armée.
On a échoué là-bas ? On a échoué là-bas ?
Si on pense si l'objectif c'était de transformer l'Afghanistan en une démocratie en 10 ans, oui. Si l'objectif c'était de ramener les petites filles à l'école, de construire des infrastructures, de moderniser notre lycée, de créer des hôpitaux, et généralement de fabriquer des partis politiques qui ont pu mener à une élection. La réponse est plutôt non, on n'a pas échoué, on est plutôt sur la bonne voie. Là où, à mon avis, l'échec principal se trouve, c'est dans l'économie. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on a déversé, on a versé des dizaines et des dizaines de milliards de dollars en Afghanistan. Beaucoup s'est perdu dans les frais des consultants divers et variés et des ONG qui travaillaient sur place. C'est jamais vraiment descendu dans les villages. Et les villages ont gagné leur vie sur l'opium. Et paradoxalement, l'Afghanistan est devenu, grâce à l'OTAN ou sous l'OTAN, le premier producteur d'héroïne au monde. Ça, c'est pas glorieux comme bilan. Ajoutons que l'Afghanistan est un pays extrêmement riche, cuivre, pierres précieuses. Et vous savez qui les exploite aujourd'hui ? Les Chinois, sous la protection d'une part des forces de l'OTAN, d'autre part de l'armée afghane. Donc tout ça est un peu, disons, mitigé comme bilan.
On aurait pu faire mieux, Pierre Lellouche.
On aurait pu faire mieux si on s'était concentré sur l'Afghanistan. Or, ce qui s'est passé, c'est que...
C'était AFPAC, justement.
Oui, mais rappelez-vous la séquence des événements. Il y a eu le 11 septembre 2001. C'est ça qui a déclenché l'opération américaine pour renverser le régime taliban à Kaboul, puisque l'attentat était parti de Kaboul. Le régime a été renversé, les Afghans voulaient ensuite trouver un modus vivendi avec l'Occident. Le début, ça s'est très bien passé. On a fait une conférence à Berlin avec tout le monde. On va aider ce pays à s'en sortir. Et puis, l'administration Bush n'avait qu'une idée, c'était de se débarrasser de Saddam Hussein dans la foulée de l'Afghanistan. Et dès la fin de la guerre, qui a été très rapide en Afghanistan, donc on est à la fin 2011, 2012 est occupé par la préparation de la guerre en Irak, et les Américains se retirent d'Afghanistan. Et c'est dans la foulée de tout ça, au moment du début de la guerre en Irak, vers 2003, qu'on fait venir l'OTAN, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un grand vide stratégique à l'intérieur de ce pays qui fait quand même presque une fois et demie la France, qui est archi-montagneux, très compliqué d'accès, il faut beaucoup d'avions, beaucoup d'hélicoptères. Et donc on fait venir l'OTAN. Mais l'OTAN n'était pas préparé à ça. Du côté français, Chirac n'avait pas très envie d'y aller. Les Allemands ont plutôt été dans des zones tadjiques pas trop exposées. Les Anglais sont allés dans le Helmand, dominé par les Pashtuns. Et c'est devenu assez vite sanglant parce que les talibans, naturellement, se sont reconstitués de l'autre côté de la frontière au Pakistan. Et là, on a commencé à voir des pressions, puis l'économie dérivée vers l'héroïne.
Et maintenant, Pierre Lellouche, et maintenant ?
Maintenant,
on a vu que les problèmes étaient anciens, qu'il fallait les mettre en perspective historique large. Mais et maintenant que l'OTAN s'en va et qu'on a des attentats monstrueux comme celui de ce matin à Peshawar, et maintenant, que faire ? Qu'est-ce qu'il y a sur la table comme scénario ?
Alors, maintenant, la première clé est dans la capacité des autorités afghanes de tenir leur pays. Et les gens qui sont en charge sont des gens capables. Ashraf Ghani, Abdullah sont des gens bien. Ce sont des nationalistes afghans qui veulent sortir le pays du fanatisme. Il faut les y aider, donc il faut continuer à les aider à avoir une armée, une police, essayer de maintenir une aide économique. mais ils n'y arriveront pas si les Pakistanais et les Indiens continuent d'utiliser leur territoire comme une sorte de guerre par personne interposée, parce que là, on n'y arrivera pas. Les Russes, les Chinois s'en mêlent pas, ils sont tous riverains. On est en train de parler d'un pays qui est au centre de toutes ces zones d'influence. Il faut absolument que le Pakistan cesse d'intervenir. Alors, peut-être que...
Comment l'y aider ou l'y contraindre ?
L'y contraindre, on n'y arrivera pas. Il faut qu'il y ait un accord entre Modi, le nouveau Premier ministre indien, et Nawaz Sharif, et donc qui laisse l'Afghanistan de côté. Alors, est-ce que dans l'opinion publique pakistanaise, qui n'est pas Pashtun, ils n'aiment pas trop les Pashtuns, les Pakistanais, parce qu'ils ont vu déferler les hordes islamistes fondamentalistes, wahhabites en fait, hein, parce que le wahhabisme, c'est là que c'est la connexion avec le Golfe. Le wahhabisme est arrivé dans cette région du monde au 19e siècle, début du 19e siècle. En fait, on retrouve l'Arabie Saoudite, là, le wahhabisme saoudien, dans cette zone tribale que les Anglais eux-mêmes n'ont jamais pu contrôler. C'est pour ça qu'on appelle ça les zones tribales. En anglais, c'était FATA, Federally Administered Territories. Et il n'y avait pas de gouverneur britannique dans cette zone-là. Personne ne pouvait contrôler ces Pashtuns. Donc, ou bien l'armée pakistanaise décide de faire le grand ménage et de se venger, et là, le Pakistan change quasiment de position, et on arrête avec la politique des services secrets, ou bien on continue, more of the same, on continue comme avant. Et là, les chances de l'Afghanistan de s'en sortir sont faibles.
Mais votre mais sentiment, ma conviction, c'est qu'il faut... Voilà, dans l'alternative, ce sera ma dernière question, Pierre Lelouch, dans l'alternative que vous venez de formuler, votre conviction, votre sentiment penche plutôt vers quelle branche ?
More of the same. Les Pakistanais ont trop besoin de haïr les Indiens pour s'arrêter de les haïr. Moi, je souhaiterais que ça s'arrange, bien sûr. Mais l'Inde est en train de décoller économiquement de façon assez fantastique. L'Inde regarde ailleurs, la limite, le problème pakistanais, c'est complètement annexe. Il y a déjà presque autant de musulmans en Inde qu'au Pakistan. Donc, les Indiens, ils se rêvent en puissance globale. Ils ont envie de sortir de cet affrontement avec le Pakistan. Mais je vous redis, la raison d'être du Pakistan, c'est de s'opposer à l'Inde. Et donc, je ne vois pas comment le Pakistan acceptera de vivre dans une sorte de paix, alors même qu'économiquement, ils sont complètement largués par l'Inde. L'Inde et la Chine, les grands voisins. Donc, merci. Je crains fort que ça continue.
Merci Pierre Lelouch, député UMP de Paris. Et nous vous recevions ici au titre d'ancien représentant de la France pour l'Afghanistan et le Pakistan. Il est 18h33.
L'artillerie pilonne Gaza.
Les séparatistes pro-russes défient les autorités ukrainiennes.
À Hong Kong, le mouvement pro-démocratie accuse la police d'avoir...
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et dans l'actualité toujours, mais sous les radars, cette nouvelle qui est arrivée en décembre par texto, par SMS, un message de quelques lignes qui disait que le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, était faute de financement dans l'incapacité de fournir son aide mensuelle à 1,5 million de réfugiés en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Iran et en Égypte. Cette « banqueroute » entre guillemets est une première depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, mais grâce à un afflux de dont le PAM a repris provisoirement son aide aux réfugiés, comme a pu le constater sur place notre correspondant au Liban, Omar Waman.
Madame, Monsieur, le Programme alimentaire mondial a le plaisir de vous annoncer que les cartes d'alimentation ont été rechargées ce vendredi 12 décembre à midi pour un montant de $30 par personne pour vos besoins alimentaires du mois de décembre.
Ce SMS envoyé par le Programme alimentaire mondial a redonné le sourire à Mustapha, qu'il a gardé précieusement dans son téléphone. Ce père de trois enfants, originaire de la ville de Homs, dans le centre de la Syrie, n'y croyait plus.
J'ai éprouvé un immense soulagement. J'étais très content car sans l'aide du PAM, nous sommes fichus. Quand j'ai reçu le premier message qui disait que le PAM devait interrompre son aide, mon cœur a failli lâcher.
Dans ce camp de Marej, dans la Beka, sur la frontière libano-syrienne, près de 1300 réfugiés vivent dans des petites cabanes ou dans des tentes sur un terrain que la boue a rendu impraticable. Assia, également de Homs, tient dans sa main droite la carte bleue fournie par le PAM. Chaque 5 du mois, c'est la somme de $240 qui est créditée, soit $30 par personne que compte sa famille. Mais le 5 décembre dernier, Assia n'a pas pu se servir de sa carte bleue pour faire ses courses.
Je vous le dis franchement, je me suis effondrée en pleurs. J'ai 6 enfants, 5 filles et un garçon. Le plus grand a 10 ans. je dois les nourrir. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai pleuré.
Comment vous avez tenu entre la date du 5 et le 12?
Nous nous sommes entraidés entre voisins. On m'a prêté de l'argent, on s'est débrouillé. Et quand le PAM a réactivé nos cartes, on s'est mis à danser dans la rue. L'aide du PAM est insuffisante, mais c'est mieux que rien. C'est toujours mieux que de voir nos enfants mourir de faim.
Vendredi 12 décembre était donc jour de fête dans ce camp de Maredj. Les réfugiés syriens ont pu se rendre chez Amar, une épicerie reconnue par l'ONU qui se trouve à 500 mètres de là, pour se fournir en denrées alimentaires de base. À la caisse, Yasmine, une Libanaise qui n'oubliera pas le jour où le PAM a cessé de verser son aide mensuelle.
Ils sont venus faire leurs courses et c'est au moment de payer qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'argent sur leur carte. Alors, ils m'ont demandé de leur faire crédit. J'ai refusé, car je ne veux pas perdre mon emploi.
Dans ce campement de fortune, les enfants sourient et demandent à être photographiés par les personnes de passage. La colère se lit en revanche sur les visages des adultes, comme sur celui de Mohamed, originaire de Hama et père de 5 enfants.
On n'avait plus rien à manger. Le seul moyen pour les enfants d'avoir quelque chose dans le ventre était de manger les feuilles des arbres et des plantes qui poussent entre les tentes.
Et perdre sa carte bleue fournie par le PAM est une épreuve quasi insurmontable. C'est ce qui est arrivé à Ala, originaire de Jobar, en banlieue est de Damas. Elle est mère de 6 enfants.
J'ai perdu ma carte, c'était il y a 5 mois. Et depuis, avec les enfants, nous mendions. Pour nous tenir au chaud, voilà ce que je mets dans le poêle. Du plastique, des restes de chaussures, mais seulement la fumée rend les enfants malades. La nuit, je me réveille, je pleure. La journée, je ramasse par terre tout ce qui peut se manger afin de nourrir mes enfants.
Pour ces réfugiés syriens qui s'apprêtent à passer un 4e hiver dans ces conditions dramatiques, l'aide du Programme alimentaire mondial est vitale. Elle a été versée avec du retard pour le mois de décembre et dépend plus que jamais de la solidarité de la communauté internationale pour les prochains mois.
Situation extrêmement précaire, donc, on le voit dans ce reportage d'Omar Waman, notre correspondant à Beyrouth, au Liban. Vous écoutez France Inter, il est 18h38, c'est un jour dans le monde. Azaf Avidan.
Don't
Over My Head, Asaf Avidan sur Inter, 18h41. Rome, où le bunker que Mussolini s'était fait construire sous sa résidence a ouvert. Il est visitable depuis le 31 octobre dernier. Il s'agit en fait de trois abris anti-aériens construits pour lui-même et sa famille dans le parc de la Villa Torlonia, dans l'est de Rome. Avant la guerre, Mussolini utilisait la villa comme résidence d'appareil. Il y vécut. C'est là qu'il reçut entre autres Gandhi en 1931 ou encore Walt Disney en 1935. Voilà pour les salons. Quant aux caves bétonnées anti-bombardements aériens, suivez le guide. Notre correspondante en Italie, Anaïs Feuga.
C'est une grille parfaitement anodine qui s'ouvre sur le flanc d'une colline du parc de Villa Torlonia. Quelques volées de marche et nous voici dans une ancienne cave à vin, premier refuge de Mussolini, comme l'explique Lorenzo Grassi de l'association Souterrain de Rome.
Ici, c'est une cave de fortune qui devait protéger de 3 à 5 heures strictement pendant les bombardements. Un petit studio est aménagé pour permettre à Mussolini de continuer à travailler pendant les bombardements, avec une ligne de téléphone directe pour l'extérieur. Sur le bureau, les journaux du 11 juin 1940 parlent de l'annonce de Mussolini de l'entrée en guerre de l'Italie. C'est pour cette raison qu'il réalisait ce refuge dans cette cave.
Mais Benito Mussolini, qui habite la villa depuis une dizaine d'années avec sa femme et ses 5 enfants, se rend compte que ce refuge de fortune n'est pas adapté malgré les aménagements. Rome est bombardée pour la première fois le 19 juillet 1943. Il y aura 53 bombardements sur la capitale italienne jusqu'en juin 1944. Mais dès décembre 1942, le dictateur décide de se faire construire un vrai bunker high-tech pour l'époque, accessible depuis sa villa.
Nous sommes ici à 6,5 mètres sous terre, dans une grande structure de ciment. Au-dessus de nos têtes, une épaisseur de 4 mètres de béton armé spécial. Voyez aussi la forme circulaire des tunnels pour amortir les effets des bombes. Il a toutes les caractéristiques d'un bunker d'avant-garde. Mais il est resté dans cet état brut de décoffrage, avec seulement la structure. Les portes n'ont jamais été installées, ni le système de ventilation de l'air. Il est resté incomplet car le 25 juillet 1943, voici ce qui arrive.
Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore.
Sa Majesté le Roi Empereur a accepté la démission du poste de chef de gouvernement, Premier ministre et secrétaire d'État, présenté par Son Excellence il Cavaliere Benito Mussolini.
Mussolini arrêté, les travaux du bunker s'arrêtent aussi. Boudé dans les années 70 à cause de son passé, le parc de Villa Torlonia est aujourd'hui un des plus beaux de Rome avec jeux pour enfants, théâtres, restaurants, musées. Et depuis quelques semaines, ses visites des bunkers du Duce, toujours pleines.
Ci aspettavamo.
On s'attendait à avoir des provocations de jeunes fanatiques, mais en fait, on a eu beaucoup de visites de personnes âgées qui ont été très émues en entendant le message radio ou en voyant des photos. Certains se sont mis à pleurer en revivant cette période et nous racontent où ils couraient se mettre à l'abri pendant les bombardements. C'est un réveil de la mémoire collective de la Rome en guerre. L'ex-maire Veltroni disait qu'en gardant ces lieux fermés, on en faisait des tabous, des lieux de simulacre. Alors qu'en les ouvrant aux visites des écoliers romains, on fait connaître des pages d'histoire, expliquant les dégâts et les horreurs qu'elle a provoquées.
Une blessure encore ouverte, dit Lorenzo Grassi, et il ajoute « Rome n'a pas encore réglé ses comptes avec cette période ».
Le reportage d'Anaïs Feuga, l'association Souterrain de Rome a restauré ses bunkers et les fait visiter. Pour information, une douzaine de bunkers pour VIP ont également été découverts dans les sous-sols de Rome. Le prochain qui ouvrira au public une fois restauré sera celui de la famille royale de Savoie. 18h45.
Thanks so much for that report.
Et un grand bonsoir à Éric Valmire. Bonsoir Éric.
Un grand bonsoir à vous Nicolas.
Partout ailleurs, au lendemain de la prise d'otage de Sydney, l'Australie aujourd'hui face au défi de l'immigration et des minorités aborigènes.
Oui, l'immigration est un thème qui était très en verve, j'allais dire, dans les dernières campagnes électorales pour les législatives. C'était un problème, si on peut appeler ça un problème, en tout cas, il était présenté sous cet angle-là dans les différents discours populistes. C'était donc une question qui n'était pas présente dans les dernières campagnes. Et là, avec évidemment la menace dite islamiste, avec l'engagement des Australiens en Afghanistan, en Irak, dans les conflits aux côtés des Occidentaux, eh bien, il s'est dégagé une sorte de courant qu'on connaît ici en Europe, qu'on connaît aux États-Unis et que l'Australie n'avait pas connu. Et les discours populistes en ont profité. Et donc, ce qui s'est passé hier a évidemment radicalisé des prises de position. Même si c'est sans doute le cas d'un individu isolé, il n'empêche que ce thème-là est récupéré. Et ça entre vraiment en ligne de compte avec tout un débat qui avait déjà lieu avec la question des minorités. La minorité la plus en vue, même si ce n'est que 2% de la population, c'est la minorité aborigène. Car les aborigènes se présentent aujourd'hui comme les vrais Australiens. Dans une société animée par les questions identitaires, les aborigènes disent « les vrais Australiens, c'est nous ». Ce n'est pas forcément tous les Australiens, nation dont l'ADN est façonné justement par l'immigration et par des immigrés venus d'Europe. Or, ces aborigènes ont été littéralement massacrés au XIXe siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y a eu une réserve comme une sorte de ghetto qui a été créé par un comité de sauvegarde du patrimoine où on les a placés là. Mais il y a évidemment 200 types d'aborigènes, il y a 200 langues, 200 dialectes. Donc c'est une question extrêmement difficile et il existe des aborigènes qui aujourd'hui ont décidé de faire le tour du monde pour présenter justement leurs difficultés, pour à travers des spectacles, à travers des chants, montrer qui ils sont et quelle est leur culture. Et là, ils présentent que ce chant, en fait, est une ode aux dauphins. Pourquoi le dauphin ? Parce que le dauphin les aide dans la chasse. C'est-à-dire que les dauphins sont leurs alliés pour attraper le poisson. Et à la fin de la pêche, eh bien, ils partagent le butin. Les pêcheurs donnent une partie des poissons aux dauphins. Et cette chanson-là, c'est ça.
Et demain, Eric sort en salle un film, Charlie's Country, sur la situation précisément des aborigènes d'Australie.
Exactement, c'est la vie d'un aborigène qui est pris entre deux cultures. Parce que les Blancs ont façonné des lois dans lesquelles les aborigènes doivent se conformer, dans lesquelles ils doivent rendre des comptes. Évidemment, c'est totalement en décalage avec leur propre culture. Ce film a été réalisé par un Australien qui vit là-bas depuis toujours et qui, depuis une dizaine d'années, est entré en contact avec la communauté aborigène pour en ressortir transformé. Il s'appelle Rolf Deher.
Ça a tout changé dans les dernières 20 ou 25 ans. Ouais. La conscience des Australiens, ça change. Mais les aborigènes sont seulement 2% de la population. Ils habitent dans les régions reculées. C'est pourquoi la plupart des Australiens n'ont jamais rencontré un aborigène.
Le film montre quand même des réactions violentes des Blancs, qui par exemple un policier va dire à un moment... Vos traditions, c'est de rester assis en tailleur, en train de boire et de cuver. Si c'est ça vos traditions, vous n'irez pas loin. Il y a là des propos très violents de la part des Blancs.
Oh, c'est un policier, oui. Ce n'est pas les Blancs. Et les gens comme Charlie, dans le film, il peut parler anglais, mais pas très bon. Le policier, il demande « Quand avez-vous fait ça ?» il dit, oh, je ne sais pas, l'année dernière. Mais pour lui, pour l'aborigène qui a dit ça, l'année dernière, il veut dire il y a longtemps. Mais il ne sait pas comment dire ça. Et il dit l'année dernière. Et puis, le policier, il trouve, ah, ce n'est pas l'année dernière. Pourquoi tu mentes à moi ? Oui, c'est comme ça.
Pensez-vous que le gouvernement va pouvoir faire quelque chose ?
Il y a une élection chaque 3 ans. Et chaque 3 ans, tout va changer. Ouais. Et les aborigènes, ils ont une culture qui ne veut pas changer. Ils disent, nous avons une loi pour 20 000 ans. Ouais. C'est une bonne loi pour nous. Vous, Blancs, vous changez la loi chaque semaine. Ça, ce n'est pas une loi. Comment nous pouvons respecter ça? C'est la très, trop grande frustration. Le deuxième problème, c'est que le gouvernement pense la nation aborigène. Ce n'est pas vrai. C'est une communauté ici, une communauté là. Ils sont différents. Les solutions doivent être différentes, ici et là. Presque tout que le gouvernement essaie de faire, ça ne marche pas. Trop de gens pensent le problème aborigène. Ce n'est pas un problème aborigène, c'est notre problème aussi.
Sur une terre d'immigrés, voilà que l'immigration et la relation aux minorités devient donc une difficulté. Charlie's Country, un véritable bijou cinématographique à voir en salle dès demain.
Merci Eric Valmire.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et c'est la fabrique du Nouveau Monde. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Nicolas.
Pendant 3 jours, les maires des villes de Centrafrique sont réunis à Bangui, la capitale, pour faciliter le retour des 850 000 Centrafricains qui ont fui la guerre et travailler à la réconciliation nationale. Un travail que fait depuis longtemps le père Bernard Quinvy, qui est une figure du pays.
Oui, alors quand éclate la bataille de Bangui en décembre 2013 entre la milice Séléka, dominante musulmane, et les chrétiens, ce prêtre de 32 ans s'occupe, lui, de sa petite paroisse et de l'hôpital à 300 km de la capitale. Il a l'allure jeune, en jean, casquette vissée sur la tête. Sa grande silhouette se fond dans la population. Il parle la langue locale qu'il a apprise en arrivant de son Togo natal.
J'aime tellement cette région. C'est une région... avec une petite colline, on est justement sur la petite colline. Il y a 3 rivières qui passent dans le village. C'est un petit village de 21 000 habitants, avec une école privée catholique, un hôpital, l'hôpital Saint-Jean-Paul de Beau-Saint-Télé que je dirige. Ce village se trouve justement à 300 km de Bangui, au nord-ouest, sur la route du Cameroun. C'est une petite paroisse, une petite église de 600 places où j'ai rencontré des gens assez simples, où les musulmans, les animistes, les chrétiens vivaient dans une cohabitation assez pacifique. Les petits conflits ne manquaient pas, mais c'était une cohabitation très pacifique. J'ai remarqué que c'est une population très simple.
Mais au mois de mai, le père Quinvy comprend que la bataille de Bangui, qui est en cours entre la milice Séléka et les chrétiens, annonce vraiment le pire. Alors il s'organise, il achète des sacs de riz et des médicaments pour tout le village. Mais il voit les chrétiens s'organiser eux-mêmes en milice. Ce sont les anti-Balaka.
Je voyais les massacres venir. D'une part, quand les rebelles Séléka commettaient des exactions dans la population, quand ils torturaient des gens, quand ils raquettaient la population... quand ils tuaient de façon abominable des civils qui n'ont rien fait de mal, quand ils faisaient ça et que je voyais aussi comment la milice d'autodéfense qu'on a nommée Anti-Balaka, comment cette milice a commencé par se former, j'ai compris que quelque chose allait se passer. Et en ce moment, avec mon autre confrère, le père Brice Patrick, on a commencé par organiser des rencontres entre les leaders religieux, donc les pasteurs, les imams, les prêtres, pour essayer de canaliser un peu cette crise. On a joué aussi un rôle de médiation où j'ai été 2 fois rencontrer les anti-Balaka pour les supplier de ne pas attaquer le village. Toutes ces démarches ont certes ralenti l'affrontement, mais ça ne l'a pas empêché.
Il accueille tout le monde, hein, Dominique, chrétien comme musulman.
Oui, il a vraiment sauvé des centaines, voire des milliers de musulmans et de chrétiens. Il a eu peur aussi lui-même. Alors aujourd'hui, la crise est finie en Centrafrique, mais la situation est extrêmement précaire et organiser des élections l'an prochain sera un défi considérable, a déjà dit l'ONU. Alors le père Quinvy continue le dialogue.
Cette commission de justice et paix est chargée de documenter les petits crimes, les petites exactions qui continuent dans la zone, espérant qu'un jour les auteurs de ces crimes seront punis un jour. Chaque fois quand il y a un dialogue avec la population, avec les chefs de quartier ou bien avec les anti-Balaka, on va avec l'imam également. Il essaie de parler avec les gens, demandant pardon pour le mal que certains musulmans ont fait. Et demandant aussi qu'il y ait vraiment une vraie paix, une vraie cohésion sociale telle qu'on l'avait vécue avant la crise.
Voilà le père Bernard Quinvy qui vient d'être récompensé pour ce travail par l'organisation Human Rights Watch.
Merci Dominique André.
Un jour dans le monde.
Alors il n'y a qu'une seule hypothèse. Ça veut dire quoi? Des bagarres toutes les nuits avec la police. Bref, ce n'est pas rien.
Sur France Inter.
C'est l'édito d'Alain Frachon du quotidien Le Monde. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Coup de chapeau et hommage ce soir à ceux qui auront tenté jusqu'au bout de faire durer la révolution des parapluies.
Voilà 11 semaines qu'ils manifestaient. On les avait oubliés, on n'en parlait plus aux actualités. Il restait un dernier carré, un noyau dur de très jeunes étudiants, rejoints par d'anonymes citoyens. Eh bien, c'est fini. Ils ont perdu. Lundi, hier, ils ont démantelé la dernière barricade, levé le dernier sitting, pacifiquement plié le dernier campement. Le mouvement des parapluies n'est plus. On l'appelait ainsi parce que les manifestants déployaient des parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes de la police. Ils n'ont rien obtenu. Ils voulaient que les candidatures à la prochaine élection pour le poste de chef de l'exécutif local, celui de Hong Kong, soient libres et non pas sélectionnées par Pékin. Bref, ils voulaient la démocratie, un peu plus de démocratie. Ils manifestaient pour l'état de droit, pour un gouvernement responsable devant les gouvernés. Il s'agissait de pousser plus avant le principe institutionnel appliqué à Hong Kong au moment de la rétrocession de cette colonie britannique à la Chine en 1997. Pékin a alors accepté la formule suivante : un pays, deux systèmes. Hong Kong, devenue région autonome de la Chine, garde une presse libre, des partis d'opposition, une justice relativement indépendante. Eh bien, les manifestants ont voulu aller plus loin, ils ont voulu tester jusqu'où Pékin était prêt à jouer le jeu. C'était un défi pour le Parti communiste chinois. Il a dit non, il a refusé la moindre concession, très intelligemment. Il a parié sur le pourrissement, l'essoufflement du mouvement, l'usure, et il a gagné. Ce mouvement avait rallié des dizaines, 100 000 personnes même, l'automne dernier. Hier, ils étaient à peine 50 et ils se sont rendus. Victoire ou aveu de faiblesse pour la Chine. Le régime de Pékin n'a pas voulu prendre le moindre risque. Il a eu peur de la contagion, peur d'un mouvement qui aurait pu faire tache d'huile sur le continent. Mais ce n'est pas fini. La question du mode d'élection du prochain chef de l'exécutif doit venir devant l'Assemblée locale en avril ou en mai 2015. Alors Nicolas, on pourrait ressortir les parapluies au printemps à Hong Kong.
Merci Alain Frachon. Le journal sur France Inter dans deux minutes.